Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
J'ai intitulé mon sujet Jésus est la moisson. Il y a dans notre Bible des tas de textes qu'on va parcourir ensemble maintenant, où il nous est montré Jésus qui est sorti. Il y a un texte qui dit qu'il est sorti de Dieu. Il est sorti du ciel pour venir sur notre terre, pour venir jusqu'à nous. Jeudi après-midi, je disais à l'évangélisation, ton roi vient à toi, humble, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est Jésus qui est sorti pour venir jusqu'à nous. Quel exemple il nous donne! Il aurait pu rester dans son ciel. Il aurait pu ne pas se soucier de nous. Mais il est sorti. Il est sorti jusqu'à nous et on a été ensemencé avec sa parole. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. » Et puis enfin, au chapitre 22, Luc 22, verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé, sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Ils n'ont manqué de rien. Amen. On peut prier que le Seigneur bénisse sa parole. C'est pas un exposé, c'est pas un discours. Et comme le don spirituel le disait tout à l'heure, c'est un message pour ton cœur. C'est un message pour ton cœur. Jésus est là. Son esprit est là. Et on va prier que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, fais-nous la grâce de recevoir ta parole dans la bonne terre. De vraiment ouvrir tout grand notre cœur. Ce message d'amour, ce message qui bouleverse, ce message qui nous transforme, ce message qui nous attire à toi. Ce message qui nous remplit de zèle, Seigneur, merci de permettre que par le Saint-Esprit, ces choses s'opèrent dans les cœurs maintenant, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, je vais vous permettre de retenir peut-être plus facilement ce qui est sur mon cœur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et chaque pensée, vous le verrez, commence par la même lettre, ce qui permet de bien retenir les choses. Tout d'abord, j'aimerais, en regardant à Jésus, le semeur par excellence, et on ne peut pas dissocier la moisson des semailles, le moissonneur par excellence aussi. J'aimerais vous faire remarquer que on peut compter, en tant que semeur du 21e siècle, on peut compter sur sa présence. La présence de Jésus, le texte que nous avons lu, dit qu'il a envoyé ses disciples dans toutes les villes et les villages où lui-même devait aller. Lui-même devait aller dans ces villes et ces villages, et les disciples n'étaient que des précurseurs, ils passaient devant lui, mais lui, il arrivait. Alors, comme il était dans son incarnation, dans son humanité, il ne pouvait pas être à tous les endroits à la fois. Mais aujourd'hui, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté à la droite du Père, qu'il a répandu de son esprit, il est partout, partout, partout. Et je crois que quand on s'aime à l'image de Jésus, on peut vraiment compter sur sa présence à nos côtés. On n'est pas seul, on n'est pas abandonné, livré à nous-mêmes, on est toujours avec lui. Il a dit, je serai tous les jours avec vous. La présence de Jésus. Je voudrais que l'on puisse y être sensible, tellement c'est important de pouvoir travailler ensemble. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre au fond de votre cœur sa voix, sa douce voix qui dit « parle à celui-là ». Dis-lui ton témoignage. Parle-lui. On est ensemble, on n'est pas tout seul. La présence de Jésus est une réalité qui déjà dans l'Évangile, alors qu'il était limité par des limites physiques, il était là à un endroit, mais déjà il préparait partout où il allait passer lui-même. Merci Seigneur de ce que tu es présent avec nous chaque jour. Et nous pouvons vraiment compter sur sa présence. Je vois aussi que, conformément à tout ce qu'on a déjà dit depuis dimanche dernier, mardi soir, il est là pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. On a lu au verset 35 de Matthieu, chapitre 9, qu'il va annoncer, proclamer le message du salut, le message de rédemption. Il est animé d'un seul message, c'est celui de la bonne nouvelle. Et on peut compter sur le fait qu'il est là avec le bon message, au bon moment, au bon endroit pour la bonne personne, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Je le rappelle, tout semeur, tout prédicateur, tout témoin ne devrait pas avoir d'autre message que celui de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'Évangile. Faites confiance au Seigneur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Jésus, en cela, est un modèle parfait. Il annonce simplement la bonne nouvelle. Dès le début, dans la synagogue à Nazareth, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Et les cœurs brisés, et les corps brisés, eh bien, vont être bénis par cette bonne nouvelle. On a entre les mains un message de salut, un message de rédemption, un message qui peut bouleverser la vie de ceux qui l'entendront. Ne laissons pas ce message sous le mouchoir, mais allons-y, proclamons la bonne nouvelle du royaume. On peut compter aussi sur la puissance de Jésus. On a lu, toujours au verset 35, qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. On a sa présence, on a sa parole et on a sa puissance. Et on a vu que non seulement lui le faisait, mais ensuite pour les 12 et pour les 70 et pour tous les disciples, voici les miracles qui accompagneront qui ? Ceux qui auront cru en mon nom. Voilà la puissance de Jésus mise à notre portée. C'est pas la nôtre de puissance, c'est celle de Jésus. Et si ce matin Dieu a guéri quelqu'un, et je le crois, c'est sa puissance qu'il a fait. C'est sa puissance. C'est pas par des œuvres, par des mérites, par je ne sais quelle autre gesticulation qu'on recevra quelque chose, mais c'est parce qu'il nous aime et parce que sa puissance est une réalité. Ne limitons pas la puissance de Dieu. Ne limitons pas ce que Dieu peut faire. Il peut nous étonner. Y a-t-il quelque chose d'étonnant qui puisse venir de la part de l'Éternel ? Il peut tout faire. Alors nous sommes souvent très limités dans notre vision des choses. Il fait tout à merveille, disaient les gens de son époque. On n'a jamais vu chose pareille. Et je voudrais, vous savez que certainement c'est votre prière aussi, la puissance de Jésus soit tout à nouveau manifeste au milieu de nous. C'est ça qu'il nous faut. Il ne nous faut pas autre chose. Seigneur, déverse ta puissance. Seigneur, tu l'as promis, c'est ta promesse, c'est ta parole. Quand tu passais de lieu en lieu, tu agissais puissamment. Vous vous êtes posé la question, pourquoi moins de puissance ? Je ne sais pas, j'arrive à Valence, mais je pense que dans notre pays de France, c'est un peu partout pareil. La puissance de Dieu. Est-ce qu'on pourrait vraiment, vraiment en cette rentrée, en faire un sujet de prière ? Seigneur, manifeste-toi puissamment, puissamment au milieu de nous. Que lorsque le malade vient au milieu de nous, il soit guéri par ta puissance. Que lorsque l'inconverti, le pécheur vient au milieu de nous, il soit convaincu de péché par ta puissance. Que Dieu nous aide à retrouver le chemin de la puissance de Jésus. Quatrièmement, j'ai lu au verset 36 que Jésus regardait les personnes. Les personnes. Il voit la foule et il la voit avec le bon regard, celui de la compassion, les personnes. Il voit comme nul autre ne peut voir parce que lui, il voit à l'intérieur. Et ça fait naître en lui une grande compassion. Pas de jugement, pas de rejet. Il n'évite personne, mais chaque personne. Vous savez, on peut voir une foule et finalement on voit personne. On peut voir une foule, puis finalement c'est tous des anonymes. Mais le regard de Jésus s'arrête sur chaque personne dans cette foule. Ce matin, il te connaît par ton nom. Il voit qui tu es, il sait qui tu es. Tu es une personne. À part entière, tu n'es pas fondu dans la foule. Tu es une personne et il voit la personne. La religion, j'aime pas trop ce mot, la relation chrétienne. Eh bien, c'est une affaire de personne à personne. C'est Jésus et moi. C'est Dieu et moi par le moyen de Jésus-Christ. Une personne. Comment est-ce qu'on voit les gens ? On les a vite classés, reconnaissons-le. On les a vite catalogués. On les a vite rangés dans des cases. Et parce qu'on a notre échelle de valeur, on a classé les gens. Moi, je vous emmènerais bien faire un stage au milieu des populations qu'on n'a pas trop envie de voir. Et je vous dirais en y allant, ce sont des personnes. On voit aujourd'hui dans l'actualité de notre pays ce qui me paraît être une dérive. C'est pas parce que t'es demandeur d'asile que t'es pas une personne. C'est pas parce que t'as pas de travail que t'es pas une personne. C'est pas parce que t'as pas l'identité française que t'es pas une personne. C'est pas parce que t'habites dans un campement qui ressemble plutôt à un bidonville que t'es pas une personne. L'orgueil de notre pays est tel que ça le pousse à mépriser la personne. Je pèse mes mots, j'assume ma prise de position, mais je dis que l'Église de Jésus-Christ devrait être le lieu où on accueille tout le monde. Où on accueille tout le monde. Et je sais que c'est vite fait, ça commence par le regard. C'est vite fait de repousser intérieurement la personne. Voilà, elle est pas comme je voudrais qu'elle soit. Mais êtes-vous comme Dieu voudrait que vous soyez? Vous êtes en chemin. Vous êtes en train de le devenir. Dieu est patient avec vous. Soyez patient avec ceux que vous rencontrez. Que Dieu nous aide à comprendre que le regard du semeur qui était Jésus sur les personnes qu'il rencontrait était un regard, le bon regard, celui de la compassion. C'est-à-dire qu'il va souffrir avec. Il va souffrir avec. Leur histoire le touche. Leur souffrance le touche. Ce qu'il traverse le remplit d'émotion, mais la bonne émotion. Ému de compassion. Vous savez, les gens, ils le sentent quand vous les regardez comme ça. Mais ils le sentent aussi quand vous les regardez pas comme ça. Il y a plein de choses qui passent dans le regard. Un jour, on m'a dit que quelqu'un avait des yeux, c'était des mitraillettes. Vous connaissez l'expression? Le regard peut tuer. On n'a encore pas parlé, déjà on a tué la personne. Jésus regardait la personne. Ne voyait pas la foule. Il voyait chaque personne de la foule. Et la regardait de la bonne façon. Je continuerai en disant que ce qu'il voit, c'est leur perdition. Leur perdition. Les brebis sont perdues. Dans le sens qu'elles ne trouvent plus le chemin. Elles ne trouvent plus le chemin. Elles sont comme des brebis sans berger. Aujourd'hui, le monde croit pouvoir conduire les gens. Oh, j'ai l'impression d'assister à un théâtre de marionnettes avec des fils invisibles que le diable tient par au-dessus. Et les gens sont manipulés, pour pas dire autrement, sont exploités, instrumentalisés, mais pas conduits. Et je vous l'ai déjà dit, on a besoin d'un berger. On a besoin de quelqu'un qui nous conduise. Jésus est le bon berger. Vous savez, il y a trois sortes de perdus. Dans Luc 15, vous connaissez la drachme perdue, la brebis perdue et le fils perdu. Eh bien, dans le monde aujourd'hui, il y a trois sortes de perdus. La drachme, elle ne sait pas qu'elle est perdue et elle ne peut pas revenir toute seule. La brebis, elle sait qu'elle est perdue, mais elle ne peut pas revenir toute seule. Et le fils, il sait qu'il est perdu, mais lui, il va revenir tout seul. Il y a trois sortes de perdus. Pour la drachme, il faut un balai et une lampe. Pour la brebis, il faut un berger qui aille le chercher et la mettre sur ses épaules. Et pour le fils, il faut simplement une maison dont la porte soit ouverte. Alors on a trois sortes de perdus autour de nous. Vous avez des gens, vous leur dites « t'es perdu » et vous répondez « non, non, je sais où je vais, je sais rentrer chez moi, je suis pas perdu ». Ils prennent ça au premier degré, ils savent pas qu'ils sont perdus. D'autres savent qu'ils sont perdus, qu'ils ont fait les mauvais choix, qu'ils sont pris dans les ronces, dans les péchés, dans les liens. Mais il faut quelqu'un pour venir les chercher. Et puis d'autres, ils ont connu la maison du Père, ils sont partis, mais ils sont perdus aussi. Mais ils connaissent le chemin du retour. Alors rapidement dit, je crois qu'il y a vraiment au milieu de nous des tas de gens perdus. Est-ce que je peux verser un peu dans vos cœurs de cette émotion divine pour les perdus? Quand Jésus voit la foule, voilà ce qu'il ressent. Des perdus, ils sont perdus. Ton voisin, ton collègue, il est perdu. C'est-à-dire que si rien ne se passe, et si l'horloge s'arrête ce soir, il va aller éternellement en enfer. On est environné de perdus. Et nous, on vit comme si tout allait bien. De toute façon, tout va bien pour nous. On est sauvés. Vous n'êtes pas ça un peu égoïste? La perdition des personnes. Que le Saint-Esprit prenne le relais de mes petits mots, de mes faibles mots, pour vous dire combien l'urgence est à mettre sur la perdition des brebis. Vous savez, quand les gens sentiront que vous êtes là dans ce bon regard et dans cette urgence, pour eux, en général, ils bougent. Vous savez, si vous travaillez au service des urgences, ma fille de temps en temps fait des stages aux urgences. Il y a urgence, quoi. Le mot est juste, le mot est choisi. Et quand on arrive aux urgences et qu'on est le malade, on s'attend à être pris en charge tout de suite. Il y a urgence. Est-ce que je peux transposer et dire qu'il y a urgence pour notre monde? Le monde chancelle comme un homme ivre, comme une cabane qui va tomber. Son péché pèse sur elle. Il n'y en a plus que pour quelque temps et tout va s'écrouler. Il n'y a pas urgence? Église de Valence, il n'y a pas urgence? Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a des perdus partout. Il y a des perdus partout. Au verset suivant, Jésus parlera de la moisson est grande, et l'on voit que le texte de Jean 4 éclaire d'une autre façon ce texte de Matthieu 9. Jésus dit, la moisson est grande. Il dit pas elle sera grande, il dit elle est, c'est au présent, c'est l'actualité. Elle est. Et dans Jean 4, 35, si on lit le texte, vous le connaissez certainement, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Je vous le dis, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et Jésus va accélérer le compteur, va faire que 4 mois vont être réduits à un rien, parce que maintenant, c'est le temps de la moisson. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve que nous sommes dans l'actualité de Dieu. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de pouvoir vraiment engranger la moisson du Seigneur. C'est une affirmation du Seigneur prouvant que c'est l'heure. Et ça fait 2000 ans que c'est l'heure. Ça fait 2000 ans que l'Église réveillée a compris que c'était le moment, que c'était le jour, que c'était l'actualité de Dieu. Et depuis 2000 ans, l'Église fidèle, eh bien, moissonne les âmes. C'est le moment. On va avancer encore et s'apercevoir que Jésus met l'accent sur le peu d'ouvriers. Le peu d'ouvriers. Alors, c'est cette fameuse phrase, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et on voit dans la vie de Jésus que sa passion a été la formation. La formation d'ouvriers. Il en a pris 12 pour les avoir avec lui. Et pendant 3 ans et demi, ils ont été en stage avec Jésus. Vous vous rendez compte? Quel maître de stage? J'aurais bien aimé être stagiaire avec Jésus. Ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu réagir. Ils l'ont vu pleurer. Ils l'ont vu souffrir. Ils l'ont vu abattre les barrières que les hommes avaient mises. Ils l'ont vu reprendre les pharisiens, ils l'ont vu confectionner le fouet et vider le temple de tous ces changeurs de monnaie. Ils l'ont vu et ils ont été formés. Je veux, mais c'est trop vaste, un trop vaste sujet pour l'aborder complètement ce matin, mais je veux quand même mettre en avant ce besoin de formation, ce besoin d'être ouvrier avec le Seigneur pour vraiment qu'il y ait de plus en plus de relève. On a, nous les quinquas, ceux qui ont 50 ans là, on se pose, je crois, on commence à se poser justement la question, et après nous? Et il faut former. Les générations passent vite et il faut former. Et si tu es jeune, entends cet appel ce matin, il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Pense, réfléchis à l'appel de Dieu. Il y a peu d'ouvriers. Et le point suivant, évidemment, c'est la prière. Priez. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Littéralement, qu'il chasse des ouvriers. Qu'il pousse un peu là dans le dos. Qu'il, allez, oui, c'est toi. Non, mais Seigneur, je suis pas capable. Si, si. Non, mais Seigneur, je suis vieux. Non, mais tu peux encore. Non, mais Seigneur, je suis jeune. Je suis pas riche. Je suis trop pauvre. Je suis pas intelligent. Enfin, tous nos arguments, toutes nos excuses. Demandez à Moïse avant de partir en Égypte. Qu'est-ce qu'il a pas dit au Seigneur? Sur ces oui, mais, oui, mais. Le Seigneur finit par se fâcher. Il dit, tu vas y aller, oui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors que Dieu nous donne de vraiment prier pour la levée d'ouvriers. Il y a des églises qui ont produit, c'est peut-être mal choisi comme expression, ont permis à des tas de frères, de sœurs d'entrer dans le ministère. Vous avez d'autres églises où ça n'a pas produit ça. On voudrait être une église qui produit des ouvriers, qui dans son sein voit des jeunes ou des moins jeunes se lever pour l'œuvre de Dieu. Prier, la prière. La prière doit toujours accompagner le semeur. La prière doit toujours accompagner le travail de semaille, que Dieu nous aide à comprendre que c'est dans la prière que tout doit baigner. Je trouve enfin deux autres points et je terminerai avec ces deux points. Dans Matthieu 10, 1 et Luc 10, 1, je trouve qu'il y a une propagation avec une stratégie de propagation. Je l'ai dit en introduction pour parler de sa présence. Il les envoie deux à deux. Est-ce que c'est pas stratégique, ça? Il les envoie deux à deux devant lui dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je ne sais pas s'il avait devant lui une carte. De toute façon, lui, il n'avait pas besoin d'un GPS. Ou plutôt, il avait le sien, guidé par le Seigneur. GPS. Il était guidé par le Seigneur. Il avait inventé le GPS avant tout le monde. Et tous les matins, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Il était guidé par le Seigneur. Il y a une stratégie. Il y a une volonté de Dieu. On le voit dans les Actes. Quand Paul et son équipe veulent entrer en Bithynie et puis en Mysie, l'Esprit de Dieu ne le leur permit pas. C'était l'heure de la Macédoine. Et la nuit suivante, en songe, un Macédonien apparaît à Paul. Passe en Macédoine, secours-nous. Nous en concluâmes que le Seigneur nous appelait à passer en Macédoine. Voilà, GPS, guidé par le Seigneur. Une stratégie de propagation. Un plan, une carte. Lui, il connaissait parfaitement le pays. Il l'avait tellement sillonné dans tous les sens. Mais moi, j'aime beaucoup les cartes. Quand je sais pas quoi faire, que j'ai 5 minutes, je prends une carte. Je dirais, il est grave, notre pasteur, hein. Non, mais ça me sert pour les visites après. Et je disais à Jean-Emmanuel dans la voiture, on va passer par là. Il me dit, mais vous savez déjà où c'est? Je dis, ben oui, j'ai regardé la carte. Voilà, on est dans un lieu, on connaît la carte. Mais que le Seigneur nous donne une stratégie d'évangélisation, une méthode, la sienne. Et ce qui a été formidable pendant un temps peut tout à fait être suivi par autre chose que le Seigneur va nous montrer et qui va nous permettre de continuer la moisson. Mais l'important, c'est la propagation. Le monde est une cible qui bouge tout le temps. On a le message, on a les flèches, on a ce qu'il faut pour envoyer le message, on a le zèle, mais la cible a bougé. Alors si nous envoyons toujours la flèche au même endroit, il n'y a peut-être plus personne à cet endroit. Seigneur, renouvelle notre intelligence afin que on puisse être sensible à cet envoi des ouvriers selon ta stratégie. On y reviendra parce que ce sont des sujets beaucoup trop importants pour être juste abordés comme ça. Mais je crois que c'est un message de rentrée. On veut être stratégique dans notre propagation de l'Évangile. Et puis, enfin, je terminerai par cette fameuse provision. Provision divine, on a lu dans Luc 22, 35, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Non, leur dit-il, de rien. On a manqué de rien. Pourtant, ils partaient avec rien. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? D'abord, il y avait une provision spirituelle. Il leur donna le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir de guérir les malades. Provision spirituelle. Ne partez pas sans la provision spirituelle. Et puis provision matérielle. Il y a toujours eu une maison qui a ouvert ses portes pour les accueillir. Et ils n'ont manqué de rien. Et moi je crois que ces textes sont toujours d'actualité. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il pourvoit pas pour les égoïstes qui viennent avec leur liste de commissions en disant il me faut ça, ça, ça et ça. Ah non, je voulais telle marque, Seigneur, c'est mieux ça. Non, il vient pourvoir aux besoins de tous ceux qui veulent aller semer, de tous ceux qui veulent aller travailler, de tous ceux qui veulent aller témoigner. La provision divine est toujours abondante. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, le grenier de Dieu est rempli et il y a toute la provision nécessaire pour que chacun puisse aller de l'avant dans ce travail de semaille et de moisson. Jésus est notre exemple parfait. Il est sorti du ciel, il a quitté le ciel, il est venu jusqu'à nous et on voit dans sa personne et dans sa façon de faire tout ce qu'il faut pour que nous, les chrétiens de maintenant, on apprenne de lui, on regarde sur lui et on fasse comme lui. Que le Seigneur t'aide à comprendre, mon frère, ma sœur, que il compte sur toi. Il veut te bénir. Et ce que tu vas vivre dans ce domaine, eh bien, va réjouir ton cœur. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir un perdu répondre au témoignage qu'on lui a rendu et venir à Christ. Pas vrai? Ça efface tous les bobos intérieurs ou extérieurs. On a été un instrument de Dieu pour le salut d'une âme. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre que c'est l'heure de la moisson, c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de compter sur lui. C'est sa présence, c'est sa parole, c'est sa puissance. Ce sont des personnes perdues. La preuve, c'est que c'est l'heure de la moisson maintenant. Et s'il y a peu d'ouvriers, il y a la prière. Et si on manque de stratégie, on peut venir auprès de lui, trouver le plan. La propagation se fera et la provision. Voilà, alors pour les étudiants que vous êtes, tous ces mots commencent par la même lettre. Et vous pouvez les retenir et vous pouvez les réviser. et vous pouvez les noter. Et vous pouvez avoir tous ces petites diapos qui sont passées. Et vous pouvez vous mettre au travail. Est-ce que l'Église n'est pas l'école de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas assis dans une école ce matin pour entendre la parole de Dieu, le Maître Jésus, nous dire ce qu'il veut pour son Église? Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse cette rentrée, qu'il permette que chaque activité soit un travail qui cohérent avec les autres activités et qui va donner du fruit à la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous et je termine avec ça. Je vous donne rendez-vous mardi soir. J'ai insisté en passant sur le fait de l'importance de la prière. Bien sûr, si votre emploi du temps le permet, si votre famille et peut-être aussi votre profession ne vous retient pas, dans la mesure du possible. Ne pensez pas que la réunion de prière est une sous-réunion, une petite réunion de semaine. C'est une grande réunion. Ce temps de prière, je vous y invite mardi soir, qu'on soit de plus en plus nombreux à prier, à intercéder. C'est un moment important pour toute la vie de l'Église. Que Dieu nous aide et nous bénisse ensemble. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions, te bénissons parce que tu es celui qui est passé devant nous, celui qui nous a ouvert la route, celui qui nous a montré l'exemple. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu veux créer en nous comme zèle pour l'évangélisation. Merci de vraiment confirmer dans les cœurs, balayer toute crainte. Et Seigneur, que vraiment dans ta grâce, les uns et les autres, dès cette semaine, on puisse vraiment semer, moissonner, travailler pour ta gloire. Merci d'agir. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen.